L'homme est la nature prenant conscience d'elle-même. C'est cette phrase d'Élisée Reclus écrite dans L'homme et la terre en 1905 qui ouvre la bande dessinée d'Étienne Davodeau, Le droit du sol, journal d'un vertige. Nous sommes le 18 août 2022 et je poursuis ma route. Je suis passé par la grotte de Pechmerle ce jour-là et ici encore, quel plaisir, certes quelque peu coupable, de me sentir regardé comme celui qui marche par celui qui roule. Changer de peau par l'intermédiaire du regard porté sur soi, une joie d'enfant de me glisser pour un temps dans le costume d'un vagabond, un clochard céleste. Je suis Lionel Sauté, bienvenue dans L'Avenir est à la campagne, le podcast. La grotte de Pechmerle a quelque chose de magique. En tout cas, les yeux que je pose sur elle me la rendent magique. Des dessins vieux de 29 000 ans faits par des gens comme nous et dont on ignore tout comme nous. Sans doute que, comme le dit Gaël Faye dans sa magnifique chanson Zanzibar, on ment pas au miroir. Autant feindre son ombre, on court après les gloires, on veut se faire un nom, avoir une preuve de soi qu'on est passé par là, alors on tague des mammouths la nuit sur les parois. Ouais, peut-être. Mais pourquoi ont-ils, elles, fait ça? Qui a fait ça? Artiste, chaman, ermite, fou folle, rejeté par sa communauté? Bon, pour le camp, on a une vague idée. À quelques siècles près. À quelques siècles près. Visiter cet endroit est presque aussi vertigineux que de s'allonger une nuit d'été dans l'herbe et de plonger dans le ciel étoilé. Ici, on peut laisser monter un vrai sourire, ce petit sourire profond et amusé devant l'immense vacuité et donc l'indispensable importance de nos existences. Et dire que cette grotte a été découverte il y a tout juste un siècle par des adolescents aventureux, téméraires, inconscients et motivés par un curé qui les encourageait à partir à la découverte du monde qui les entoure. Et ce monde qui les entoure n'était pas le bout du monde, c'était leur environnement immédiat. Il y a des trésors juste à côté de nous. Un trou, des bougies, un boyau dans la roche, et les voilà partis pour ramper sur 120 mètres sans savoir s'ils allaient tomber sur un animal furieux du dérangement, une créature diabolique ou un Jules Verne en quête d'inspiration. Quel sentiment a dû s'emparer d'eux au moment de découvrir ces salles magnifiques, fruits de millénaires d'évolution géologique, et ces œuvres d'art posées là par nos ancêtres, nos sœurs et nos frères d'avant. Aujourd'hui, bien sûr, la grotte est un lieu qui génère une intense activité économique. C'est le trésor local, le trésor de Cabreret, la commune sur laquelle est située la grotte. Elle fait des envieux, la grotte de Pechmerle, comme tous les trésors. Il se murmure que le très connu et trop visité Saint-Cyr Lapopie aimerait bien récupérer la grotte sur son territoire. Ou comment le déjà gros a encore une petite faim, comme un goût d'éternel refrain. En tout cas, si vous allez à Pechmerle, vous pouvez rejoindre à pied le village de Cabreret et passer comme moi devant l'ancienne école transformée en bibliothèque. Communale. Comme elle semblait ouverte, j'y suis entré et j'ai fait la connaissance de Nicole et Will, de délicieux humains, délicieux mais fatigués. Ils ne ménagent pas leurs efforts pour faire en sorte que cette bibliothèque soit encore debout, mais ils me disent combien la population locale s'en fout et combien les visiteurs sont rares. Et surtout, ils me parlent de l'actualité de leur bibliothèque, je vous explique. Pour intégrer le répertoire numérique du Grand Cahors, tous les livres de leur bibliothèque de village doivent être numérisés. C'est-à-dire qu'à la fin de cette opération qu'ils me décrivent comme extrêmement coûteuse en aller-retour de conseillers en tout genre, le public pourra, d'un clic, savoir quel livre il sera susceptible de trouver dans ce petit lieu qui jusqu'à présent se contentait naïvement de... prêter des bouquins. Quel archaïsme! Mais le meilleur est à venir, car le Grand Cahors, ce géant qui sait tout mieux que vous, issu de la famille des Gullivers qu'on ne peut ficeler, le Grand Cahors leur impose de faire le tri parmi les livres. Ils doivent donc éjecter de leur bibliothèque tous les bouquins non sélectionnés. Par qui? Sur quels critères? C'est un mystère. En tout cas, me disent-ils, les bouquins qu'ils prêtent le plus souvent se retrouvent quasiment tous expulsés des rayons. Ce sont ceux qui concernent l'histoire locale ou les romans de campagne. Alors, ils ne comprennent pas. Mais ils suivent les recommandations, ou plutôt les ordres du Grand Cahors. Et ils m'invitent à prendre ce que je veux, puisque tout ce qui n'est pas accepté sera refusé. Je refuse, moi aussi, tout d'abord, parce que j'ai déjà embarqué pas mal de lectures et parce que mon sac pèse suffisamment lourd. Mais je finis par emporter une version de poche du livre écrit en 1978 par Henri Vincenot, La Bible, et dans lequel on peut lire Aujourd'hui pourtant, parce que l'on se désagrège dans leur bouillon de fausses cultures, que l'on se tape la tête contre les murs de leurs ineffables ensembles modèles, que l'on se tortille sur leur uranium enrichi comme des vers de terre, sur une tartine d'acide sulfurique fumant, que l'on crève de peur en équilibre instable sur le couvercle de leur marmite atomique, dans leur univers planifié, les grands esprits viennent gravement nous expliquer en pleurnichant que la science et sa fille bâtarde, l'industrie, sont en train d'empoisonner la planète, ce qu'un enfant de 15 ans, à peine sorti de ses forêts natales, avait compris un demi-siècle plus tôt. C'est dans cette petite bibliothèque tenue par des humains remarquables que j'ai fait mon seul enregistrement sonore du voyage. Je vous présente donc Nicole et Will, un Hollandais tombé amoureux du Lot.
Bon, alors du coup, j'ai mis l'enregistrement.
C'est un déjeuner pour.
Donc là, moi, je suis rentré dans ma balade dans l'ancienne école des filles.
C'est ça, qui a été une école mixte.
Et du coup, maintenant, c'est la bibliothèque du village.
C'est ça.
Et il y a combien d'habitants?
L'autre salle, c'est la salle de réunion de nos associations.
Combien y a d'habitants ici?
Dans la commune, il y en a 230. Et la superficie de la commune, c'est à peu près Paris et c'est immense.
C'est une des plus grandes du
département.
5000 hectares, je crois, dans ce style-là.
Ah ouais. Et du
mais
bois,
très peu peuplé.
Beaucoup de bois, quoi.
Voilà, c'est ça. Un demi ou un quart d'habitant au kilomètre carré. Oui, partagez
un quart d'habitant. Et alors là, moi, ce que vous m'aviez dit à l'instant, c'était que donc, vous êtes en train d'offrir des livres aux gens qui passent.
C'est ça.
Moi, j'en ai récupéré un.
C'est ça.
Parce que
ça nous fait vraiment plaisir.
Mais en même temps, c'est pas un truc super, parce que du coup, c'est dû au fait que vous allez intégrer la bibliothèque du Grand Cahors, là, le circuit... Non, c'est pas ça.
Si.
Ouais. Si, ça. Tout ça, c'est la bibliothèque départementale.
Ça, c'est la bibliothèque de près. C'est encore autre chose. Et la médiathèque du Grand Cahors, c'est autre chose. C'est qui numérise notre fonds propre. C'est deux...
Tout le monde s'en mêle.
Deux strates différentes qui apparemment, comment dire, sont connectées.
Plus ou moins.
Voilà.
Donc, ils numérisent les ressources qu'ils ont sélectionnées,
voilà,
qui rentrent dans leurs critères, parce que tout sera pas... disponibles sur leur base numérique.
Il y a que ce qu'ils
ont.
Tout
le reste,
tout ce qu'ils ont.
Ben c'est à foutre
pour
à la poubelle.
C'est des déchets.
C'est pas foutre
et
à la
vous
poubelle.
Et vous avez su quels étaient leurs critères ou pas de sélection, de choix?
Bon, ils nous ont dit qu'ils viendraient désherber avec nous.
Oui. Ça s'appelle désherber. Ouais.
Désherber.
Ouais,
oui.
Et pour ce qui poussait, ils l'ont désherbé.
C'est Roundup, comme vous dites, parce que c'est... Alors après, les critères, c'est ça. C'est, est-ce que c'est, comment dire, au goût du jour? Est-ce que c'est en bon état? Mais ça, on peut le comprendre. Tous les livres qui ont ces pages marron, on peut comprendre. Mais les livres qui étaient en bon état, parce qu'on les avait quand même déjà triés auparavant, quand on avait fait la bibliothèque. Il y en a que nous, on aurait supporté de voir encore. Mais ça ne rentre pas dans leurs critères. C'est ce que je vous dis.
C'est ça.
Et après, alors, une fois que ce sera fini, ce désherbage-là,
c'est fait.
D'accord.
C'est fait.
C'est à
mais
nous
si vous,
de jeter,
c'est le résultat.
De donner okay. Ou de re-ranger dans...
Oui, mais re-ranger, on va se faire un point pour ça. Voilà. Moi,
je parce que donc, sinon, vous les gardez, vous les proposez quand même à la location, au prêt.
C'est même plus du prêt. Ça, en fait, les gens prendront, plus. Rendront ou pas. Voilà, c'est un libre service. Alors que ça, c'est obligatoirement contrôlé.
Et ça, là. Si, quand je dis ça, c'est le truc qui
la
sera
bibliothèque
numérisé.
De prêt, ça. Non, ça c'est fait. Ça c'est la bibliothèque de prêt.
Voilà.
C'est compliqué chez nous.
Mais si vous voulez en rajouter, vous, des bouquins.
Ah, ben alors voilà, ça sera pas numérisé. Donc, là, si on a des livres actuellement qui rentrent, ils ne rentreront pas dans le système. Parce qu'ils ne seront pas numérisés.
Mais on s'en fiche, les livres.
Eh bien, on les mettra à part.
Ça reste donc, lisible.
Tout à fait, mais on les mettra à part.
Et appréciable.
Et il y a ceux qui rentrent dans le moule et ceux qui ne rentrent pas. Est-ce que vous comprenez?
Mais il faut suivre leur goût.
C'est ça.
Et c'est pas mon goût.
Et alors, c'est quoi? Parce qu'il y a des trucs que vous auriez gardés et qu'ils n'ont pas gardé, vous?
Ce que j'ai lu, moi,
ouais,
de notre bibliothèque, ça vient de... Ce fond.
Que de ce qui n'est pas... De ce qui...
Absolument.
Mais, non, mais...
À 100%.
Nous, on a regardé ce qui était propre, ce qui n'était pas en mauvais état. Mais déjà, le livre de poche ne rentre pas dans les critères.
Ah bah merde, alors. Ça, ça
mais oui, comme vous dites.
Donc, il ne reste plus rien.
Et ça, c'est qui, alors, qui initie ça? C'est...
Ah ben ça, c'est des grands penseurs. On est quand même géré par des grands penseurs, vous le savez.
Ouais.
Je ne plaisante pas.
Et vous, vous êtes employé par la commune pour gérer la bibliothèque ?
Non, on est bénévole.
Vous êtes entièrement bénévole.
Bénévole, il ne faut pas l'oublier, parce que je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'on est très très bien payé.
Ah oui, moi je
qu'on
me suis dit,
qu'on a de gros émoluments.
Eux, ils émargent à 8000 au moins, quoi.
Oui. Je ne sais déjà pas beaucoup, mais voilà. Non, nous sommes bénévoles, et on insiste bien sur ça.
Vous êtes à la retraite ?
Oui.
Vous faisiez quoi, si ce n'est pas indiscret ?
Moi, je suis de l'enseignement.
Prof de français ?
Non.
Ça aurait pu.
Chez les petits.
Ah oui ?
Et vous, c'est pour ça que je tente de bagou.
Prof à la fac de médecine, immunologie, parasitologie, bactériologie.
Vous avez un petit accent ou pas ?
Ouais, Amsterdam.
Un hollandais, pur et dur. Ça aussi, c'est un hollandais qui s'est proposé pour venir bénévole à l'association.
Et vous disiez qu'il n'y a pas grand monde qui y vient à la bibliothèque ?
Personne. Enfin, personne.
Quasi.
Quasi personne.
Pourquoi vous continuez alors ?
Pour les quelques personnes
par,
qui viennent.
Comment dire ? C'est du réaction.
En espérant que les gens viendront, les lecteurs.
Pour ne pas couper le fil ?
C'est ça.
C'est ça.
Parce qu'on y croit. Envers et contre tout. On y croit, c'est tout. Moi, je... Après, on se
plaît. Vous en discutez un peu avec les gens de pourquoi ils ne viennent pas ?
Même pas. Ça ne m'intéresse pas.
Ceux qui ne viennent pas, c'est...
C'est parce qu'ils ne sont pas intéressés.
Ça ne sert à rien de... Ceux qui viennent, viennent pour soit nous voir, nous parler.
C'est ça.
Soit pour emprunter un livre.
Après, il y a une chose, c'est qu'on a une population qui nous a demandé précisément de verser dans cette numérisation. Parce que c'est moderne. C'est des gens qu'on n'a jamais vus de façon classique, mais qu'on attend au virage.
Maintenant que c'est numérisé, la bibliothèque
parce
va être pleine.
Parce que si par hasard ils ne viennent pas, là, on va avoir
c'est
de quoi.
Pour rien.
Hein, on va avoir.
Non, c'est vrai, ils vous ont dit quand on aura cet outil moderne.
Ils n'ont pas dit quand on aura, mais il faut. Parce que ça, c'est moderne. C'est, voilà, c'est, là, ça donnera.
Voilà, alors là, on est au cœur de
là,
ce,
on est
de
au
ce
cœur
qui m'intéresse.
Voilà.
C'est parce que c'est moderne, alors il faut
voilà,
y aller.
Alors on attend. On attend le. Hein, oui.
C'est triste.
Ouais, on attend le retour.
Et on ça, le c'est... attendra à l'éternité. Parce
je ne sais pas, bon. Mais bon, en tous les cas, moi, je me charge bien de sortir.
Parce que c'est moderne, alors il faut y aller.
Voilà. Et là, ils se sentiront mieux.
Comment il va, votre village ?
C'est un peu compliqué.
Quand la mairie propose quelque chose de nouveau. C'est « Oh non, mais ça va pas !» Et rien. Contester, ils savent le faire.
Disons qu'on a un peu de mal à être suivi. Après, on se sert bien de nous, entre guillemets. C'est-à-dire, tout ce que... Ah, mais faites-le, vous. Non, vous vous en occupez. Pas de souci. D'accord. Et après, par contre, quand on est dans la manifestation, on n'a pas beaucoup de monde. On se sent pas... Comment dire, épaulés même par ces personnes-là, qui attendent bien de nous qu'on fasse quelque chose. On a besoin de nous pour faire les choses.
Et puis, ils s'en fichent.
Ils
s'en fichent.
C'est compliqué.
C'est un peu dommage.
L'avenir du village, c'est quoi ?
Bonne question.
Il y a des jeunes qui s'installent, il y a des...
Les jeunes, on ne les voit pas, on ne sait pas où ils sont. Non, il n'y a pas de...
Non, il y a des jeunes de passage, qui sont les saisonniers qui servent dans les trois restaurants.
C'est la grotte, à Pêche-Mel. Parce qu'on a quand même une grotte là-haut.
J'en reviens.
Qui est quand même...
Voilà.
Quoi ?
Une manne magnifique.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est les jeunes qui viennent.
Sur la commune ?
Oui.
C'est des retombées positives financièrement
bien
pour
sûr.
La commune ?
Mais bon, très longtemps, on a associé Pêche-Merle, bon, je ne vais pas être méchante, mais à Saint-Cyr-la-Poupie. La publicité,
Saint-Cyr,
Pêche-Merle.
On le fait toujours.
Saint-Cyr, je suis désolé, ce n'est pas Pêche-Merle. Et donc, on s'est fait, qu'est-ce que je veux dire ? On pénètre sous les pattes. Les gens vont à Pêche-Merle, ils ne se sont même pas remarqués que c'est passé par Cavoret. Ils ne s'en sont pas aperçus. Donc là aussi, on peut se poser des questions quant à ce qui est poursuivi. Parce que ça, c'est sûr que c'est quand même, pour le village, c'est combien, 62 000 visiteurs par an, des choses comme ça.
85
000. Enfin bon, voilà, si on savait exploiter ça, ou exploiter dans le bon sens du terme, pour le village...
Pourquoi vous ne savez pas le faire ?
Ah non, je trouve pourquoi que...
Non, mais non. Pour réserver sa place... Pour une visite à la grotte, ça va par internet et tout ça. et Internet vous branche sur l'office de tourisme de Saint-Cyr-la-Pompie.
Ah oui, vous n'existez pas.
Non, on n'existe pas. On n'a jamais trop existé.
On est les sous-fifres de Saint-Cyr-la-Pompie.
Et non, vous avez quand même des retombées financières.
Ah oui, pour l'instant, oui. Mais jusqu'à temps que... Je dois vous dire que ça doit faire quand même de très gros envieux.
La grotte, c'est une belle source de revenus.
En plus, franchement, c'est... Je ne sais pas si vous l'avez visité, mais
c'est superbe. Oui, j'aime beaucoup.
C'est exceptionnel.
C'est magnifique.
Par rapport à toutes les grottes qui sont des copies, qui sont des facsimilés de ceci, de cela, là, franchement, on a quelque chose de formidable. Il faudrait savoir le mettre en valeur.
Oui, bon, c'est peut-être...
On ne sait pas se le mettre en valeur.
Aussi, le désavantage d'appartenir au Grand Cahors. On n'est plus maître chez soi.
Un peu ça. Et on est tout à fait, si vous voulez, extrapolé, parce que la communauté de Grand Cahors, c'est la vallée du Lot. Nous, on est la vallée du Célé. Donc, on est la verrue au bout de ce grand ensemble. On ne devrait pas y être. On serait plutôt vers le Figeac ou vers le Massif. Logiquement, géographiquement, ça serait plus... Et là, on est le petit... Mais je pense que peut-être il y a Pêche-Mère aussi qui donne une certaine aura.
Oui. Désolé. Faut que
j'aille faire des coupures au sombre.
Merci d'avoir échangé. C'est intéressant, hein, parce que moi, je...
Faut des coupures au sombre.
Cette histoire de communauté de communes et d'absorption par plus grand que soi, ça revient toujours.
Merci Nicole, merci Will de votre accueil et pour cette délicieuse rencontre. Je garde précieusement le bouquin de Vincenot. Je le ressortirai dans 29 000 ans pour témoigner d'un âge perdu où l'homme était un raconteur d'histoire grâce à des mots couchés sur le papier. Des mots comme ceci. Le bois, c'est un moyen de chauffage merveilleux. Ne chauffe-t-il pas 6 fois? Une fois quand on l'abat, une fois quand on le moule, une fois quand on le débarde, une fois quand on le scie, une fois quand on le fend, et enfin, quand on voit sa flamme. Au-delà du sourire que provoque la phrase, elle nous parle aussi de l'importance du travail manuel et de la puissance de l'autonomie. En partant de Cabreret, je me dis que ce que j'y ai croisé concentre finalement beaucoup de mes interrogations. J'y ai visité la grotte de Pêche-Mère, le magnifique et fragile témoignage de ce que nous fûmes, niché quelque part entre mystère, spirituel, expression artistique, célébration de la nature, et qui nous parle du temps long et de la relativité de nos urgences. Cette grotte, aujourd'hui entreprise florissante, inscrite dans la réalité économique d'un territoire rural qui se cherche un avenir à travers le numérique et le tourisme. Et en parallèle, comme en miroir, j'ai échangé longuement avec deux êtres humains qui savent combien le livre est précieux, car après tout, quand tous les livres auront été numérisés, il suffira d'un cliquement de doigts pour le prochain autodafé. Il y a partout en France des Nicole et des Will qui continuent bénévolement à faire vivre les bibliothèques des villages. Rejoignons-les pour lire et pour rire ensemble. Quel plaisir de traverser la magnifique vallée de Louis, verdoyante, si rare cet été-là. Elle semblait pleine de vie et préservée d'une canicule persistante qui donnait partout au paysage un air d'automne en avance. Mais là, ici et maintenant, tout était bien. Il faisait chaud et la végétation était mon amie. Après une petite toilette au pied de la rivière, où des sables mouvants manquèrent de m'avaler, je me suis finalement remis en route après avoir volontairement étiré le temps, retardant le moment de reprendre la route et me dissimulant au regard d'un couple de randonneurs, sans doute pour éprouver le sentiment du renard qui ne manque pas de nous observer lors de nos visites en son domaine. Je fus dans l'étonnante vallée de Louis, au sortir de la grotte de Pêche-Merle, pareil au premier humain qui se lave et au renard à l'affût. Et ce soir-là, j'ai dormi à Rocamadour. J'ai fait les derniers kilomètres dans le van d'un Anglais nomade et barbu. Son camion était sa maison, sa liberté enviable et sa précarité visible. Lui semblait heureux, ses sentiments simples, mais qui était-il au fond? Les gens que nous croisons ne sont-ils pas en grande partie composés de ce que nous projetons sur eux? Lui était aussi simple que complexe au vu de mes projections à son égard. Simple sa vie présente et longue sans doute sa route. Après m'avoir déconseillé la visite de Rocamadour, envahi et défiguré par le tourisme, il m'a indiqué un endroit où planter ma tente, à l'abri du tumulte. Son conseil était bon, ses mises en garde justifiées, et le lendemain matin, après avoir plié ma tente et rejoint le centre de ce magnifique village, dont les pierres semblent chargées d'histoires, de légendes, de croyances et d'épais mystères, je m'assois à la terrasse d'un café et j'écris. C'est à croire qu'il n'y a pas d'habitants ici. Des boutiques de souvenirs en plastique dont la qualité ne dupe plus personne, de quoi manger partout la même chose et la tranquille impression de ne croiser que des semblables, des catégories supérieures ou qui jouent à l'être. Qu'est-ce qui nous pousse à continuer à jouer à ce jeu? Qu'est-ce que je visite en venant ici? Qu'est-ce que je vis? Je gare ma voiture au trop cher parking prévu pour les gens comme moi, je m'arrache à contre-cœur au doux cocon métallique et climatisé, j'appuie sur la télécommande pour le rendre inviolable, je monte péniblement quelques marches et je vais m'asseoir au restaurant où je pourrai manger la même chose que la veille, où je serai servi par un saisonnier qui n'habite le coin que pour la saison, et si j'ai le courage et que je ne me sens pas trop lourd, j'irai prendre une photo de la Vierge Noire sans doute après avoir cédé à l'appel de l'ascenseur parce que oui, décidément, j'aurais dû refuser le café gourmand. Puis je posterai la photo sur mes réseaux sociaux, histoire d'affirmer que j'y suis venu, que ma vie est enviable aussi, et j'attendrai fébrilement que les autres acquiescent d'un pouce bleu, ou mieux, d'un cœur rouge. C'est rien de dire que le tourisme a profondément modifié nos lieux de vie et notre rapport au monde. Je crois que nous avons fini par confondre tourisme et voyage. Le touriste visite pour le plaisir quand le voyageur cherche à être transporté. Or, on peut voyager sans bouger de chez soi. On peut être transporté immobile. Voyager en empruntant toujours le même sentier, celui de juste à côté. C'est alors à notre regard d'évoluer. Se laisser modifier par les saisons, par les humeurs, par les sons et le présent qui n'est jamais le même. Le voyage peut s'inventer partout. Alors que le tourisme est une quête sans fin, destructrice et inégalitaire. Les lieux que le tourisme envahit finissent par devenir des coquilles vides, des machines à profit, des façades de cinéma peuplées par des commerçants ou des intermittents de la vie déployés par les offices de tourisme pour y jouer les habitants. Voyage immobile, cours le monde. Celui du chemin en bas de chez toi, ou celui tout au bout du globe. Heureux celui qui, sans bouger, rêve des lointains paysages et honore les plus beaux voyages. En partant de Rocamadour, je me dis que bientôt, il sera plus attirant de plonger dans une expérience virtuelle que de venir sur place. On évitera les parkings et les coûts de déplacement, et l'expérience promet d'être supérieure, des espaces vierges, des explications personnalisées, des simulations du passé. Imaginez, vous êtes confortablement installé dans votre canapé, un casque de réalité virtuelle sur les yeux, devant vous s'ouvre Rocamadour. Mais un Rocamadour vierge de touristes, vous gravissez sans peine ces nombreuses marches, il ne reste que le plaisir, vous voilà immergé dans la population telle qu'elle habitait la cité il y a 200 ans, ou 500 à votre guise, et accessible d'un clic ou d'un battement de cils. Vous partez à la recherche de la Vierge Noire, en famille, vous répondez à des énigmes dans un environnement sécurisé, et votre fils ne se renversera pas de glace sur le t-shirt, et vous n'aurez pas à subir les effluves de transpiration du touriste voisin, et cerise verte sur le gâteau vegan, vous ne polluerez plus. Plus de voitures, plus que du décarboné, du produit loin dans de bonnes conditions, alors on fait confiance, il n'y a pas de raison. Du déculpabilisé, du dépolitisé, du bonheur, enfin. Voilà les promesses de l'avenir, dans lequel nous n'aurons plus besoin d'un monde réel préservé, puisque le virtuel sera en tout point meilleur. La révolution est en marche, le réel est en passe de devenir obsolète. La réalité concrète du monde et le savoir humain seront bientôt dépassés par la puissance des machines. Alors nous n'aurons plus qu'à prendre soin de nos nourrices de cobalt et d'acier. La réalité concrète du monde et le savoir humain seront bientôt dépassés par la puissance des machines. Nous n'aurons plus qu'à prendre soin de nos nourrices de cobalt et prendre soin de nos nourrices de cobalt. Jadis, nous dépendions de notre environnement immédiat, pour nous nourrir, pour nous chauffer, pour habiter, pour satisfaire nos besoins primaires, c'est-à-dire pour être libres. C'est à côté de chez nous que tout cela se jouait. Il nous était indispensable de préserver la rivière et l'oiseau, de prendre soin d'eux comme nous prenions soin de nous, car nous n'étions qu'un, nos vies étaient mêlées. Et puis le commerce lointain nous a peu à peu éloignés de cette nécessité. Nous avons pu consommer ce qui venait de loin, vendre nos productions. Petit à petit, nous ne dépendions plus de notre environnement immédiat. Aujourd'hui, les camions nous abreuvent de tout ce dont nous avons besoin, et bien plus encore. Les nouvelles technologies nous mettent en chemin pour nous couper du monde, et les promesses de colonisation d'autres planètes rendent la préservation de notre monde accessoire. Il me semble que la charnière de notre époque est là. Si nous acceptons cette double rupture, nous pourrons alors terminer l'exploitation de ce qui fut notre berceau et assumer sa destruction. Petit a, la nature est séparée de Dieu. La légende de l'arbre devient la légende de la Vierge dans l'arbre. Petit b, la révolution industrielle déclare la nature comme ressource dépourvue d'intelligence ou d'influence invisible, un puits sans fond de ressources à disposition de l'extractivisme. L'humain, seul avec la matière, il ne reste que la relation toute verticale à Dieu. Mais, petit c, La mort de Dieu entérine la totale solitude de l'humain. Rien n'existe à part l'humain. Tout ce qui l'entoure est ressource. Son destin peut se déployer partout où la ressource existe, en réalité ou en fantasme. Nous pouvons dès lors aller chercher ailleurs notre futur, dans la machine ou sur Mars. La science a remplacé Dieu. L'habitant, le paysan païen ou polythéiste a laissé le rationnel remplacer le sensible et ses légendes, jusque dans son rapport au spirituel. Nous avons brûlé nos sorcières et confié les clés des mystères à la blouse blanche, celle qui est sûre d'elle et qui peut tout expliquer. Souvent, tout au long du chemin, j'ai laissé mon esprit divaguer sur notre rapport à la religion. Parce que partout où je passe demeurent ses traces. Hier encore, les cloches sonnaient tous les dimanches dans tous les villages de France. L'église était partout, dans l'éducation, dans les champs et les troupeaux. Et même si je ne nourris aucune nostalgie pour ce temps où il nous fallait être bons par crainte du châtiment divin ou par terreur de la déviance sexuelle de son représentant, je constate comment, en l'espace de quelques décennies, la religion a quasiment disparu de nos vies quotidiennes, comme l'impression qu'elle ne sert aujourd'hui qu'à être l'épouvantail permanent des conflits qui prennent en vérité racine dans des réalités bien plus concrètes que de connaître la couleur des médailles qui ornent les coups de Mahomet ou Jésus ou David. Qu'est-ce que cette disparition de nos vies, de notre culture, a produit en nous ? Largement discutable sur bien des points, la présence de la religion dans nos vies avait peut-être au moins le mérite de créer une passerelle entre l'évident mystère de la vie sur une planète perdue dans une galaxie, perdue dans un système solaire, perdue dans des milliers de systèmes semblables et nous. Elle pouvait nous offrir un temps de recueillement, de silence, de méditation. Elle pouvait nous donner la sensation d'appartenir à une communauté. Lorsque je voyage, je me rends toujours dans les églises. Et je m'y assois quelques instants pour apprécier le calme qui y règne, la fraîcheur souvent, et la beauté. Calme, fraîcheur, beauté, cérémonie, rituel, chant. Peu de notions soutenues par nos sociétés ultralibérales et productivistes. Performance individuelle, réussite, parce que quand on veut, on peut. Parce que tout échec est une défaite personnelle, que l'on peut éviter en trouvant le bon bouquin de développement personnel sur la bonne étagère des librairies industrielles qui en regorgent. Après avoir cru aux elfes, nous avons cru en Dieu. Puis nos espérances collectives ont bâti le phare de la République, égalité, fraternité, liberté. Aujourd'hui, où ces macros qui vivent de et sous son or la vendent à leurs amis en de sordides soirées privées, surtout de décence, nous n'avons plus le choix. Il nous faut réinventer un idéal simple et lent. Sur ce chemin de lenteur et d'effort, qui est encore le mien pour quelques jours, avant d'être de nouveau attrapé par la nécessaire productivité dont je me dois raisonnablement de faire preuve, je me dis que décidément les plus beaux chemins sont les chemins tortueux. L'envie toujours d'aller voir ce qui se cache derrière le prochain virage. La ligne droite est une construction humaine. On a fini par croire qu'elle était notre route, la seule. Or nous sommes courbes, nous sommes cercles. Les saisons, les cultures des champs, les naissances et les morts, tout revient toujours. Nous naissons d'une bulle et nous nous tenons toute notre vie debout sur une boule suspendue dans le vide qui tourne autour d'une balle en feu. Nos horloges sont des cercles et les aiguilles reviennent toujours, toujours identiques et à chaque fois différentes. La modernité nous a imposé la ligne droite, sans fin. Le cercle fécond, fermé, rassurant a été chassé par la ligne droite clivante et si maladroitement masculine. Désormais, l'avenir est toujours devant nous. Rien de ce qui fut le passé ne doit revenir. Il n'est qu'archaïsme, sauvage, danger, ignorant, incapable de répondre aux défis de demain. Le progrès technique et scientifique nous projette sans cesse vers un avenir radieux. Nous sommes lancés sur une ligne droite et les problèmes d'aujourd'hui seront solutionnés par les découvertes techniques et scientifiques de demain. Alors si on me propose la ligne droite, eh bien je choisis le funambule. Et puis dès que j'aurai franchi le bout du câble, je le sectionnerai. Et j'aurai plaisir à le voir se courber une fois sa tension relâchée. Si nous recourbions la ligne, nous connaissons le passé, nous avons l'expérience du présent et nous savons que le futur tel qu'il semble prévisible n'est pas une voie d'avenir possible. Alors nous pouvons, comme le suggérait GB au début des années 70 dans l'an 01, nous arrêter, réfléchir. Ça serait pas triste. Nous pouvons recréer localement des conditions de vie soutenables, prendre soin des ressources, les partager, repenser les notions de communauté, d'autonomie, de rapport au sauvage, à la spiritualité. Nous pouvons accueillir les rejetés et aimer les différences. Le passé ne reviendra plus, mais il peut nous inspirer. Nous pouvons rire de ce que nous fûmes et dresser l'inventaire de ce que nous voulons faire ressurgir. J'ai souvent pensé à Pier Paolo Pasolini lors de mon petit périple. Lui qui écrivait en 1964 « Je suis une force du passé ». Tout mon amour va à la tradition. Je viens des ruines, des églises, des retables d'hôtels, des villages oubliés des Apennins et des Préalpes où mes frères ont vécu. J'erre sur la Tuscolana comme un fou, sur la Pia comme un chien sans maître, où je regarde les crépuscules, les matins sur Rome, sur la Chiocciaria, sur le monde, comme les premiers actes de la post-histoire auxquels j'assiste par privilège d'état civique, du bord extrême de quelque époque ensevelie. Il est monstrueux celui qui est né des entrailles d'une femme morte, et moi, je rôde, fœtus, adulte, plus moderne que n'importe quel moderne, pour chercher des frères qui ne sont plus. En cette soirée du 18 août 2022, je suis à Pinsac, après être passé par le beau village de Belcastel. Je retrouve du confort, je dors au camping. La vie va me reprendre, me remettre devant mes paradoxes, et me montrer comment elle peut être belle quand elle est simple. La simplicité et la sophistication suprême. C'est pas de moi, c'est de Léonard, de Vinci. La simplicité et la sophistication suprême. Nous voici arrivés au bout de la deuxième étape de notre voyage commun. Merci d'avoir cheminé avec moi sur les sentiers empruntés lors de l'été 2022. Il y aura un troisième et dernier épisode autour de ce sinueux voyage. Merci à Rix pour l'habillage musical, à La Talvera pour la chanson du générique et à Gaël Fay et Kate Jarrett pour les notes de piano sur lesquelles je me permets encore de parler. L'Avenir est à la campagne est un podcast artisanal fabriqué par la Compagnie des Funambules. Si le projet de territoire qui était la base de ce podcast s'est arrêté à l'été 2023, le podcast, lui, continue son chemin. Toutes les infos sur lesfunambules.fr. N'hésitez pas à partager, à mettre des étoiles, des bonnes notes, des bons points, des images ou tout simplement à en parler à l'ancienne. Si vous voulez nous soutenir, contactez-nous, on trouvera sans doute un moyen. Un mail, avenircampagne@lesfunambules.fr. Merci de votre écoute et à très vite pour la suite.